La honte, le sentiment de honte, on le développe depuis hier, s'oppose ou risque de s'opposer au sentiment de dignité qui permet sans doute de construire ce que Winnicott aurait appelé une estime suffisante de soi. Les politiques publiques, telles qu'elles sont déployées dans nos domaines d'éducation, de protection de l'enfance, d'action sociale et de politique familiale, ces politiques publiques sont censées respecter la dignité des personnes et les aider même à la restaurer lorsqu'elle a été mise à mal. C'est cet aspect particulier que Fabienne Quiriot, directrice générale de la CNAP, aborde avec nous maintenant. Elle connaît bien le CNDPF et suit nos travaux avec complicité bienveillante depuis maintenant des années, mais il est bien possible que nous connaissions moins bien la CNAP. Je vous en prie.
Bonjour. Alors d'abord, merci de m'avoir invité à ces journées. C'est vrai que j'y ai souvent participé il y a quelques années. Alors la CNAP, en deux mots, l'intérêt, c'est de pouvoir assembler des mouvements professionnels tels que le CNDPF, mais aussi le CNAEMO et d'autres, et ATD Carmonde, ainsi que des associations qui sont investies dans la protection de l'enfance. Et on voit toute la richesse de ces différentes composantes pour pouvoir réfléchir ensemble et apporter aussi notre réflexion à la fois au terrain, mais aussi peser sur les politiques publiques. Donc le thème de mon intervention, c'est politique publique au singulier et respect de la dignité. Alors avant d'en parler, je me suis demandé en découvrant ce sujet et puis la thématique de ces journées, s'il n'y avait pas eu une inspiration de la dernière définition donnée par le Haut Conseil du Travail Social, on va mettre ça, voilà, qui a été d'ailleurs introduit dans un décret. Déjà, on est là, dans la politique publique. Hein. Il se fonde, ce travail social, c'est un extrait sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée. Donc on parle de personne accompagnée désormais, on ne parle plus d'usager dans les textes, dans le respect de la dignité de cette dernière. Donc déjà on y est, respect de la dignité de cette dernière, on y reviendra. Alors la dignité, pour moi, je l'ai surtout, j'en ai pris la mesure, ça a résonné, quand j'ai entendu le mouvement ATD Carmonde en parler. Je sais que des membres sont intervenus hier. J'avoue que pour moi aussi, ce fut une découverte très forte qui a changé mon regard sur ce que pouvaient éprouver les personnes en grande précarité, dans la misère la plus totale, et à quel point ces personnes aspiraient à la dignité et à quel point elles étaient sensibles à tout ce qui pouvait soit atteindre leur dignité, soit au contraire la restaurer. En dépit de la honte, évidemment c'est un terme aussi qui est très fort chez ATD, la honte infligée par ces conditions de vie qui sont de misère, mais pour eux, en ayant longtemps fait en sorte d'entendre, d'écouter ce que les uns et les autres disaient, être traités dans la dignité, avec dignité, leur reconnaître cette dignité, c'était aussi important, c'est un besoin aussi essentiel que de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un toit pour subsister. Donc c'est quelque chose qui est très fort et qui mieux qu'à t'aider, d'ailleurs, c'est dans sa déclinaison même, peut autant aussi bien parler de la dignité, quelquefois peut-être avec des propos hein, qui peuvent heurter les professionnels. Nous-mêmes, au sein de la CNAP, il n'a pas été évident au départ d'entendre les propos d'ATD Carmonde, ce regard qui est porté aussi sur la manière dont on traite les personnes, les familles et les enfants. Mais je crois que c'est bien aussi d'entendre cela pour se questionner. Alors chacun, quel que soit son statut, a à voir avec la dignité, évidemment. Mais cette dignité, on le constate, elle est particulièrement mise à mal quand on est vulnérable, a fortiori quand on est vulnérable. Me vient à l'esprit divers témoignages, comme pour vous sans doute, à propos des familles, des enfants, des jeunes, qui n'expriment pas la dignité en tant que telle. Ce n'est pas un mot qui est souvent exprimé, mais à chaque fois, il est question de leur ressenti et il est question du regard des autres. Il me semble que pire que le regard des autres, c'est l'absence de regard. Et je pense particulièrement à ces jeunes sortis souvent brutalement de la protection de l'enfance, qui se retrouvent dans la rue, démunis, sans ressources, sans appui d'aucune sorte, et que le passant, qui les voit ou qui ne les voit pas, sans doute par gêne, mais quelquefois sans concession, ne les regarde pas. Ils deviennent des êtres invisibles de l'espace public, comme d'ailleurs de nombreux SDF, et tout ça nous interpelle sur la dignité de ces personnes. Alors, évidemment, aucun d'entre eux ne va revendiquer la dignité. Mais pourtant, il en est toujours question. Ils en parlent avec leurs mots, M-O-T, et à travers leurs mots, M-A-U-S, à travers leur histoire de vie, à travers leur mal-être, à travers le manque d'attention et d'égard, de déconsidération. Ils ont fini par croire qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt, de confiance. C'est quelque chose qui est très fort quand on voit aussi les jeunes adultes qui arrivent dans les lieux d'accueil, très abîmés par ça, la dévalorisation d'eux-mêmes, le manque d'affection. Ils disent rejeter la société avec leurs mots, quelquefois violemment, mais en réalité, c'est la société qui a fini par les mettre au banc. Alors la plupart, et moi c'est ce qui me frappe le plus, et à TD aussi, c'est que la plupart vivent en dehors du droit, de leurs droits, des droits. C'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel, des droits les plus fondamentaux aux droits qui paraissent les moins essentiels et qui pour eux sont essentiels, je pense notamment à la culture. Jouir de ses droits dans un pays démocratique, c'est une évidence, surtout quand on fait référence aux droits de l'homme. Tous égaux en droit, en théorie, mais pas de fait pour les plus vulnérables, ce qui soulève d'ailleurs la question de l'accès aux droits, qui soulève la question de l'effectivité. Alors, parce que justement, sans doute, plus que pour les autres, ils sont vulnérables. Ils ne sont pas perçus, curieusement, y compris dans le monde qui est le nôtre, ce monde sociaux, médicaux, éducatifs. Ils ne sont pas toujours perçus comme sujets de droit, mais d'abord objets d'intervention sociale. Les travaux préparatoires au plan pauvreté en 2012, auxquels j'ai participé, Dominique Versini peut-être en a parlé hier, ont souligné l'impact du non-recours. Pour les personnes présentes qui faisaient partie du 18e collège, hein, les personnes qui représentent justement les familles en situation de grande précarité, qui participent à la réflexion sur les politiques publiques, ont souligné qu'il s'agissait souvent des personnes qui, pour la plupart, ne demandent rien, ne veulent rien, ne savent rien de leurs droits et sans doute que l'on n'aide pas ou pas suffisamment ou pas comme il faudrait pour les accompagner, accéder et à jouir de tous leurs droits. Alors il ne s'agit pas que des droits relatifs aux prestations sociales et je pense que vous en connaissez un domaine important, mais il s'agit aussi des droits humains. Il s'agit de tous les droits, de la vie ordinaire, de la vie du citoyen ordinaire, de la vie en société, et tout simplement, je dirais qu'il s'agit du respect de leur dignité. Alors, on est en plein dans le sujet, puisque les politiques publiques vont s'intéresser aux droits des personnes et vont les réaffirmer. Vont les réaffirmer très fortement, et c'est vrai qu'on a une façon de voir les politiques publiques, quelquefois, quand on est sur le terrain, avec beaucoup de distance. Et pourtant, ces politiques publiques, je vais en reparler tout de suite, mais ne parviennent pas, au fond, à faire prendre en compte aux uns et aux autres, je ne parle pas que des professionnels, mais à tout ce qui participe justement à la vie de ces personnes, l'importance des droits à leur juste mesure. Et même dans le champ médico-social. Et pourtant, jouir de ces droits, encore une fois, c'est le vecteur majeur pour accéder et pour jouir de sa dignité et changer le regard aussi que l'on porte sur soi. Alors j'en viens au sujet plus précisément de ces politiques publiques. Alors le sujet politique publique et respect de la dignité. Alors j'ai relevé que politique publique est au singulier déjà, alors que souvent nous parlons de politique publique au pluriel. C'est vrai que la politique publique, c'est tout. Finalement, quand on y réfléchit, elle touche à tous les compartiments de notre vie, y compris sur le plan financier, sur le plan des transports, sur le plan de l'école, etc. Si vous réfléchissez un instant, tout ce qui fait la vie quotidienne et à long terme est inscrit finalement dans les politiques publiques, et c'est ce qui explique d'ailleurs une multitude de codes. Et donc, évidemment, parler du respect de la dignité par rapport aux politiques publiques, c'est vrai qu'a priori, on n'a pas forcément donc cet a priori positif. On voit les politiques publiques plutôt comme des politiques assez froides. D'ailleurs, elle souffre aujourd'hui sans doute d'une mauvaise cote de la part de ceux-là même qui sont chargés de la mettre en œuvre. Beaucoup de critiques sont émises à l'encontre des politiques publiques, notamment ces dernières années, et de plus en plus. Curieusement, on n'a jamais autant parlé des politiques publiques et jamais dans des termes aussi incisifs. Parce que le sentiment qui prédomine, finalement, et qui est assez partagé, et notamment, encore une fois, dans le champ de la protection de l'enfance, du médico-social, on l'entend souvent, ces politiques publiques sont floues. Elles sont quasiment inapplicables, hein, de plus en plus. Et nous, on y voit un risque à s'éloigner de ces politiques publiques, garantes aussi des droits, hein, des personnes, inapplicables, contraires même à l'intérêt des personnes, parce qu'elles sont déconnectées, dit-on, des réalités quotidiennes et qu'elles ne reflètent pas la vraie vie, les vraies préoccupations des gens, hein, sur leur territoire. Qu'elles répondent, alors ça, ce sont des critiques que vous entendez, que vous-même vous formulez, que nous-mêmes on formule, hein. Elles répondent plus à des logiques gestionnaires, hein, qui desservent beaucoup plus l'intérêt général et l'intérêt particulier, laissant sur le carreau les plus fragiles. Hein, on voit bien que petit à petit, ces politiques publiques, hein, on a le sentiment d'un rouleau compresseur, hein, sur ceux qui sont le plus loin de ces politiques publiques et les moins bénéficiaires. Elles sont dites complexes pour les personnes elles-mêmes qui ne les comprennent pas, pas compréhensibles, mais pour les professionnels eux-mêmes qui se disent en surcharge par rapport aux exigences de ces politiques publiques. Et en même temps, elles sont dites cloisonnées. Alors là, c'est le discours, hein, qu'on entend. Elles sont cloisonnées, segmentées en tuyaux d'orgue, enfin, court-termistes. On dit qu'il n'y a plus de vision à long terme et que finalement les projets politiques n'investissent pas forcément ces politiques publiques, que c'est du coup par coup, elles sont peu collaboratives, elles sont directives de plus en plus et davantage curatives que préventives. C'est vrai qu'en France, on a un problème avec tout ce qui sera en amont, hein, pour prévenir justement la dégradation des situations. Alors si on s'en tient à un tel constat, on peut dire que les politiques publiques ne vont pas forcément dans le sens de la dignité des personnes. Elles ne ménagent pas forcément cette dignité. Et pourtant, quand on observe l'évolution des politiques publiques, notamment depuis le début des années 2000, ce que l'on peut dire, c'est que paradoxalement, et là c'est un vrai paradoxe, on n'a jamais eu donc le sentiment qu'elle bafouait autant la personne humaine, et paradoxalement, ces politiques publiques évoluent très fortement. D'ailleurs, si on s'arrête à partir de 2002, la loi du 2 janvier 2002, et toutes les lois qui vont venir ensuite, toutes, aucune ne contredit cette tendance, toutes expriment avec force les droits des personnes, les besoins des personnes, le respect de l'expression et de la participation des personnes, qu'elles soient partie prenante. On parle de concertation, de co-construction. On n'a jamais autant parlé de tout ça. Donc il y a un vrai paradoxe. Si l'on regarde toutes les lois, les personnes âgées, les personnes handicapées 2005, les lois protection de l'enfance 2007 et 2016, on n'arrête pas d'insister là-dessus. Et donc, tous ces textes, au fond, ils sont d'une certaine exigence vis-à-vis, effectivement, de ceux qui sont auprès de la personne, qui interviennent auprès de la personne, puisqu'ils nous disent que chaque personne, ils insistent, la singularité de la personne dans son entier, dans sa globalité, non vue uniquement par le prisme de ses problèmes, mais en tant que personne, dans ses potentialités, dans ses capacités, dans ce qu'elle peut apporter. Donc il y a un renversement, justement, du regard de la personne, pour construire aussi son projet. Donc on est sur la notion de projet, alors critiqué par les uns, soutenu par les autres, c'est quoi ce projet ? Qu'elle doit complètement, finalement, exprimer ses attentes, compte tenu de ses capacités, mais aussi compte tenu de son environnement, compte tenu des ressources. On a une vision vraiment écosystémique de la manière dont on doit accompagner la personne. Et on voit bien qu'il y a une prise en considération légale. Ce sont les lois, c'est le droit qui reconnaît à toutes ces personnes cela, mais on voit bien que là, ça vient s'entrechoquer effectivement avec l'opérationnalité, la mise en œuvre. Et on peut dire que toutes ces politiques publiques, au fond, certaines l'écrivent expressément, visent la dignité des personnes et que peut-être, petit à petit, elles revêtent un certain visage humain, elles s'humanisent d'une certaine manière. Alors, la déclinaison opérationnelle, comme je le disais, ne va pas de soi. Et ça interpelle. Pourquoi ça ne va pas de soi ? Pourtant, quand on demande aux uns, aux autres, aux professionnels, aux politiques, personne ne vous dira le contraire. On est tous d'accord pour bien traiter les enfants, pour considérer les personnes, pour les ménager, respecter leur dignité. Personne. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dise le contraire. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des vents contraires. Il y a des effets contraires qui viennent complètement mettre en tension à la fois les politiques publiques, les professionnels dans leur action quotidienne et tous les acteurs qui sont auprès des familles, des enfants. Et ça, ça nous interpelle. On voit bien que il y a peut-être une question de volonté politique insuffisamment portée sur ces questions, au niveau peut-être national, j'en suis pas certaine, mais au niveau peut-être des territoires, peut-être la méconnaissance de ces politiques publiques, avec des malentendus, peut-être le contexte qui ne s'y prête pas. Et je m'arrêterai 2 secondes sur le contexte, les effets du contexte, à quel point ils peuvent être oppressants sur l'action, justement. Le contexte, c'était quelque chose dont on ne tenait pas compte il y a encore quelques temps, il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien qu'il est très prégnant. Alors le contexte, il peut être très prégnant pour des contraintes diverses, socio-économiques, politiques, juridiques. Il peut y avoir des textes, justement, qui empêchent, qui entravent l'action auprès des personnes. Mais en même temps, il y a un certain nombre de paramètres, ne serait-ce que dans l'organisation même, des acteurs qui interviennent auprès des personnes, qui peuvent compromettre des projets, qui viennent les escamoter, qui viennent malmener la dignité des personnes. Et moi, il y a un facteur qui, depuis quelques années, émerge très fortement, une dizaine d'années, c'est cette contrainte temps. dont tout le monde parle. Alors oui, on n'a pas le temps. D'ailleurs, on n'a pas le temps professionnellement. Les retraités n'ont pas le temps. Personne n'a le temps. On n'a pas suffisamment de temps disponible. Et ces politiques publiques sont très exigeantes pour intervenir auprès de la personne et prendre le temps justement de les écouter, de co-construire, d'être à leur écoute. Et on voit bien que le temps vient percuter cette bonne intention. Et c'est un des éléments de notre point de vue qu'on identifie qui bafoue le plus la dignité des personnes. Je vous donne juste un exemple pour illustrer. C'est peut-être en dehors de nous, mais pas tout à fait, à propos, par exemple, des personnes âgées. Plus le temps d'être à leur écoute, plus le temps d'entendre leurs besoins le plus élémentaires au quotidien, qui les affectent dans leur intimité et dans leur dignité, mais... Quand on fait le parallèle, c'est vrai pour aussi les familles, c'est vrai pour les enfants et les jeunes. Donc on ne prend pas soin en ne prenant pas le temps, mais pour des contraintes diverses. Alors, nombreux sont les témoignages de professionnels qui souffrent de cette situation. Qui peut se réjouir de cette situation? Il y a une aspiration, à faire le mieux possible pour ces personnes. On est dans l'empathie, on souhaite l'être en tout cas. Et on voit bien que, malgré eux, ils ont pleinement conscience qu'eux aussi participent à cette forme de maltraitance qui vient quelquefois piétiner aussi leur dignité. Comment, dans ce cas, être porteur de dignité, si on n'y arrive pas? Et finalement, les professionnels eux-mêmes se sentent aussi dans l'indignité professionnelle. Finalement, quel est le sens de ce travail si, du coup, il devient finalement contre-productif et quel est le sens, justement, de l'utilité à intervenir auprès des personnes? Alors, le plus gros risque qu'on identifie, nous, c'est l'habituation. C'est comme ça. On n'a pas le temps, on ne peut pas. D'ailleurs, vous voyez bien, quand on interroge malheureusement les soignants, c'est ce qu'ils vous disent. On voudrait, mais on ne peut pas. Donc, c'est l'habituation, c'est le renoncement. C'est le fatalisme. Et encore une fois, ça nous interpelle. Alors, est-ce qu'il y a une fatalité à ce que les choses indéfiniment se dégradent à ce point? C'est un scénario pessimiste, là, que je dépeins, parce que on a le sentiment qu'on est dans un mouvement qui laisse penser que ça va continuer à se dégrader. Le rapport aux personnes risque de se dégrader. Tous ceux qui interviennent à domicile le diront aussi, vous-même et d'autres, qui viennent aussi remettre en question l'objectif de bien-être, l'objectif de mieux-être. On voit bien que tout ça ne permet pas aux politiques publiques. Elles ont des effets pervers, donc elles sont de ce fait dévoyées. En fait, on va à l'encontre même de l'aide qu'on est censé apporter à ces personnes qui délaissent beaucoup d'entre elles et notamment une bonne partie des enfants et des jeunes. Bientôt paraîtra le rapport sur la pauvreté des enfants et des jeunes. Et je pense que ce qui nous inquiète, c'est qu'on faisait ces constats il y a encore des années, mais là, on voit qu'il y en a de plus en plus. Que c'est de plus en plus durable, de plus en plus profond, et ça touche tous les compartiments, et c'est une réalité. Donc, ça nous interpelle. Il y a une véritable rupture d'égalité de traitement, on le voit bien, les écarts se creusent, entre ceux qui arrivent à s'en sortir, qui ont des soutiens, qui sont véritablement soutenus, dans tous les domaines de vie, à l'école, la santé, etc., et on voit bien que les écarts sont de plus en plus grands, et donc... Ça affecte évidemment la dignité des personnes. Alors, là-dessus vient s'ajouter un contexte général qui n'est pas très propice, qui incite au repli sur soi, souvent, sous fond d'insécurité sociale, économique, de sécurité publique, tout simplement, et qui vont nourrir justement des sentiments individualistes. On dénonce souvent cela. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'est possible, nous, la CNAP, avec nos composantes professionnelles, le CNDPF, est-ce que c'est possible de se résoudre à cela? Est-ce que c'est ça, la société d'aujourd'hui, de demain? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de réagir. Est-ce qu'on a les moyens de réagir? Est-ce qu'on peut se donner du pouvoir d'agir, justement, pour contredire ces projections pessimistes? Parce que si, effectivement, on ne fait rien, si on ne réagit pas, on risque de voir de plus en plus affirmer ces tendances néfastes aux personnes. Et donc, on a souhaité engager une réflexion prospective avec les différentes composantes de la CNAP, justement, pour prendre le contre-pied de ces tendances. Et en se disant, puisqu'il y a de plus en plus de mal-être ressenti, réel, vécu, eh bien, nous, on va penser bien-être. Et on va se donner comme perspective le bien-être de l'enfance et des jeunes à l'horizon 2025. Alors, ça a été le sujet de nos travaux prospectifs et je crois que ça vaut la peine d'en parler parce que ça nous a beaucoup interpellés justement sur le fait qu'on pouvait, au fond, se donner beaucoup plus de moyens d'action qu'on ne le pensait. Agir, ne pas subir. Et donc, c'est un droit. On a considéré que le droit au bien-être était un droit. Un droit universel qui concernait tous les enfants et tous les jeunes. Jeunes, pour nous, ça va jusqu'à 25 ans et au-delà. Mais qui doit être une réalité universelle. C'est pas tant de le dire, c'est comment on le vit au quotidien. Et en fait, ces travaux prospectifs, certes, ils ont traité de ce bien-être, comment on peut atteindre le bien-être, comment se donner les moyens de l'atteindre. Mais au fond, viser le bien-être, c'est contribuer à la dignité des personnes. Quand les personnes sont dans le bien-être, elles sont aussi dans la dignité. Et elle renvoie une image, forcément, qui donne envie à l'autre de le regarder dans sa dignité. Posons-nous la question de seconde, quand on est dans le mal-être, est-ce qu'on se sent soi-même dans la dignité? Et est-ce qu'on suscite ce regard, justement, qui est très dur de l'autre? Quand il n'y a pas d'empathie, quand il n'y a pas, justement, de compréhension, est-ce qu'on l'attire? Donc on s'est dit, voilà... Vraiment, pour nous, c'est un enjeu. Et au fond, encore une fois, on pourrait viser le bien-être comme la dignité. Je crois que c'est la même chose. Alors, le choix du sujet, autant vous dire, le bien-être, y compris au sein même de notre groupe, on a composé un groupe de travail. Au sein même de notre groupe, ça a suscité beaucoup de débats. Beaucoup de débats. Mais pourquoi le bien-être? Quelle idée? Quelle idée? Pourquoi? Au motif que, tout simplement, le bien-être, ce n'était pas la préoccupation première. Le bien-être, c'est vraiment un objectif... on va dire, subsidiaire. Si, on y pense au bien-être, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, bien sûr, c'est de résoudre les problèmes des personnes, là, maintenant, ici et maintenant. Et donc, on a tenu bon, on a essayé de convaincre les uns les autres, et puis nous sommes allés chercher des sources. On s'est dit, mais au fond, pourquoi on pense bien-être? Justement, est-ce que c'est uniquement pour prendre le contre-pied du mal-être, ou est-ce que d'autres que nous ont déjà pensé à donner ce cap-là? Bien sûr, il y a toutes les lois dont j'ai parlé, mais quand on a recherché dans des textes, et je voudrais passer un premier texte, vous voyez, je vous ai parlé de la définition du travail social au niveau national. Nous sommes allés rechercher dans la définition du travail au niveau international. Alors, je suis sûre que cette définition, elle n'est pas connue, pas trop connue. Donc, je vous la lis. Le travail social assure la promotion du changement social, la résolution des problèmes dans le contexte des relations humaines, l'autonomisation et la libération des personnes pour l'amélioration de leur bien-être. Alors, cette définition, attendez, ce n'est pas donné par des conceptuels, c'est donné par, justement, des associations de travail social et par des associations de formation en travail social au niveau international. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont donner... effectivement, cette définition qui a été donnée déjà en 2004, qui a été revisitée et réaffirmée en 2014, et vous voyez, on est au cœur du sujet. Nous sommes allés chercher aussi une autre définition. Dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez qu'elle n'est pas récente, 1946, c'est toujours réaffirmé, et qui nous dit que la santé est un état de complet bien-être, de complet bien-être, c'est très précis, physique, donc il faut être bien dans son corps, mental, donc psychique, enfin tout ce qui va nous affecter, et social, dans sa vie sociale, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc vous voyez, ça nous donnait... Mais on a trouvé encore autre chose, pour vous dire à quel point, vous voyez, on a... tous ces textes infusent peu hein, dans notre monde, parce que, effectivement, l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, alors on en parle un peu plus depuis quelques années, et notamment l'article 3, qui dit, c'est un extrait, hein, les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Donc la protection, voilà. La protection et les soins nécessaires à son bien-être. La protection, entendez, toute la protection, hein, y compris la protection de l'enfance, bien évidemment. Et il est dit, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents. Déjà, ça nous indique que les parents ne sont pas du tout exclus de ce processus, et bien au contraire, qu'ils sont très impliqués, concernés au premier chef, par le bien-être de leur enfant. Et puis, nous avons trouvé aussi, au niveau européen, la fameuse charte européenne des droits fondamentaux qui dit d'ailleurs dans son chapitre premier à propos de la dignité, qui consacre un chapitre entier. Je lis, la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. L'article 24 à propos des enfants, qui dit que les enfants ont droit à la protection et aux soins, ça vous rappelle justement toutes les définitions antérieures, nécessaires à leur bien-être. Donc ça, c'est de la politique publique. Parce que du coup, on va transposer justement hein, dans notre réflexion donc toutes ces recommandations, et on voit bien à quel point le bien-être est un objectif majeur que tout acteur auprès des familles, des enfants, doit viser. Alors on s'est senti un peu plus légitime de parler textes, et c'est pour ça que les textes, il ne faut pas les déconsidérer, ils nous sont utiles pour affirmer des choses et pour les personnes de revendiquer leurs droits. Ces textes donnent des orientations, parfois aussi imposent des obligations en matière de bien-être, mais on le sait tous, et c'est vrai pour tous les textes, ils ne suffisent pas. Ils sont nécessaires, parce qu'ils doivent justement appuyer les droits des personnes, mais en même temps, ils ne suffisent pas. Lire les textes, les avoir en référence, si on ne les met pas en œuvre, ça n'a aucun sens. Et on le voit bien, que la plus grande difficulté, c'est de passer justement de ce niveau conceptuel et politique, des politiques publiques, à la mise en œuvre sur les territoires. Alors, qu'est-ce qui manque de par notre étude prospective? Évidemment, je vais être très schématique, mais je vous renvoie à nos travaux. On ne les a pas encore forcément mis en ligne, mais je crois qu'on le fera très bientôt, hein, puisqu'on a distribué une synthèse. Ils nous disent, oui, ils confirment, à travers tous ces travaux, ce travail prospectif nous a demandé un investissement énorme, hein, un travail de plus de 24 mois avec beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, beaucoup de réflexions, beaucoup aussi de supervision technique de la part de prospectivistes pour voir si nous étions aussi dans les clous. Et on a pu dégager que, oui, ce qui était marquant, c'est quelquefois la volonté politique et stratégique qui était insuffisante pour les mettre en œuvre, que ça nécessitait de la détermination de chacun à tous les niveaux et qu'il s'agissait de penser le quotidien mais aussi l'avenir. Et le bien-être donc est apparu dans nos travaux et nous ne pensions pas arriver à cette chose-là, c'est que le bien-être c'est un objectif crucial effectivement qui est démontré pour notre société présente et à venir. Et c'est une vision à partager. Viser le bien-être, je suis sûre que si on se met tous en perspective avec pour objectif de viser le bien-être pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes, et si les politiques visaient le bien-être, je pense qu'on aurait finalement une autre façon de voir les choses. Donc c'est vraiment encore une fois une approche écosystémique qui concerne tout le monde. Penser un changement ne concerne pas simplement un professionnel dans son coin ou un politique dans tel département, ou tel parent, mais c'est tout un ensemble hein, qu'il s'agit de mettre justement en mouvement. Hein. C'est un mouvement d'ensemble qui concerne les pouvoirs publics, mais aussi les particuliers, qui concerne la société civile et particulièrement les associations. Et du coup, nous, on s'est positionnés côté association. Nous sommes constitués en association composée à la fois de bénévoles et de professionnels. Et que pouvons-nous faire justement pour changer contribuer en tout cas au changement. Et c'est ainsi qu'on a essayé de décliner un plan d'action. Et là aussi, je vais vous en donner quelques lignes avec quelques éléments de référence. Mais je crois qu'on est bien au cœur du sujet qui m'est posé. Alors, on va donner justement quelques éléments très rapidement du plan d'action.
5 minutes.
D'accord. Donc, ce plan d'action... Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc comment on l'a construit suite à ce qu'on avait pu recueillir comme documentation, en dégageant des tendances, en choisissant un scénario que l'on souhaite hein, pour le bien-être des enfants, pour assembler, pour être dynamique. Donc on a déterminé 4 domaines sur lesquels les associations devaient agir. Mais ça vaut pour les associations et ça vaut pour tout le monde. Hein. Mais on s'est positionné du point de vue des associations. Et on s'est dit finalement, pour que les choses puissent changer et qu'on puisse atteindre cet objectif de bien-être pour tous, les enfants, les jeunes, leurs familles, il y a quelque chose à faire. Les territoires, et on sait bien que l'enjeu de l'action politique, des politiques publiques, ça se passe aussi et avant tout sur les territoires. Que faire à l'égard des pouvoirs publics et des politiques publiques, comment on peut agir, et que faire du point de vue des associations elles-mêmes, comment se remettre en question pour agir, tout ça au regard des enjeux, des objectifs et des leviers. Donc juste pour les enfants, les jeunes, leurs familles, on a défini 4 grands enjeux que l'on devait absolument relever. Il fallait absolument que nous faisions bouger finalement le regard que porte la société sur l'enfance et la jeunesse. Un regard, il vous a pas échappé, qui soit est marqué de désintérêt, soit de connotation négative. Sans concession pour l'enfance et la jeunesse. Je parle de la société, je ne parle pas des parents en lien avec leurs enfants. Donc, il nous appartient sans doute de changer la communication, la manière dont nous-mêmes nous parlons des enfants et des jeunes. Dans nos espaces à nous, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics, dans la société, avec les autres à tout instant. Donc on a véritablement un effort de communication par rapport à ça. On s'est dit qu'il était très important aussi de développer le pouvoir d'agir des enfants, des familles, des parents. Donc on a essayé de décliner tout cela en action. Hein, donc je vous renvoie à nos travaux. Comment donner aux personnes cet espace pour pouvoir aussi dire ce qu'elles pensent, exprimer leurs attentes et être en contradiction avec ce que pense l'autre pour elles. Et comment leur fait une place justement pour s'exprimer. C'est vrai pour les enfants. Comment donne aux enfants aussi cet espace pour qu'ils puissent s'exprimer à sa façon, à sa juste place, hein, ce qu'ils souhaitent et ses désirs. L'effectivité des droits, donc c'est un sujet bien sûr essentiel, l'effectivité des droits, comment on amène ces personnes qui sont quelquefois loin des droits, les enfants, les parents, les familles, à accéder à leurs droits et à en jouir effectivement. Et c'est toute la question de l'effectivité des droits. Comment on adapte aussi les modes éducatifs et les pratiques. Sans doute, il y a quelque chose à voir, des postures éducatives. Sans doute, il y a quelque chose à voir aussi des organisations institutionnelles par rapport aux consignes qu'elles donnent, par rapport à ce qu'elles portent elles-mêmes en matière de travail auprès des familles. Autre domaine, les territoires. Un enjeu majeur. On sait bien que ça se jouera là. Et donc, ce qui nous apparaît important, 4 enjeux à relever pour les associations, la synergie des acteurs locaux au service des projets collectifs et individuels, et là, c'est l'enjeu, c'est l'ouverture. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que les associations puissent travailler en vase clos. C'est impossible, mais personne ne le pensera. Et le défi, c'est l'ouverture, et c'est ce qu'on a pu appeler à un moment donné au niveau européen la désinstitutionnalisation. C'est l'ouverture. L'ouverture dans la vie, des gens, là où vivent les gens, sur leur territoire de vie. Et donc, travailler avec d'autres. On n'a pas toutes les ressources, on n'a pas toutes les possibilités. Les ressources sont éparses. Et il faut avoir cette approche, justement, pour identifier ces ressources qui sont ici et là, dans un écosystème, où on va essayer, justement, de penser les besoins des personnes en recherchant les potentialités et en recherchant les ressources. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui nous indique qu'on a tout intérêt à être beaucoup plus attentifs à cela. Comment mobilise les ressources des territoires? Et on s'est rendu compte que c'est sur les territoires, ça regorgeait de ressources, notamment par exemple pour les jeunes en insertion. Souvent, on a le sentiment que c'est bloqué. On n'y arrive pas. Mais en fait, quand on met en synergie, quand on mobilise toutes les ressources, tous les acteurs qui interviennent, à un titre ou à un autre, par exemple pour les jeunes en insertion, ben on se rend compte que finalement, on arrive à provoquer quelque chose qui ressemble justement à une volonté, à une mobilisation. Et comment on renforce la cohésion sociale sur les territoires, c'est un véritable enjeu. Pensez à aller vers. Aller vers parce que justement, il y a du repli sur soi et il y a des... Oui, il y a des, peut-être des replis communautaires. Il ne faut pas les laisser de côté, justement, pas de fatalité. Essayer d'aller vers, de repenser justement cette vie sur les territoires. Est-ce que ça doit être enclavé ou est-ce qu'on revitalise ces territoires par la présence, par le travail? Ça fait appel à la prévention spécialisée, mais il y a tous les acteurs justement qui interviennent auprès des familles. Autre domaine, les pouvoirs publics et les politiques publiques, nous avons là été très très critique par rapport aux positions des associations, du moins leur comportement à l'égard des politiques publiques et à l'égard des pouvoirs publics, les sentant un peu trop passifs quelquefois. Donc il y a un réveil depuis quelques années, c'est vrai, mais tout ça jouait en défaveur finalement des associations, des professionnels, mais aussi des familles. Et on s'est dit qu'il fallait inverser ce rapport de force, hein, et de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans les rapports qui se construit par la confiance des pouvoirs publics, avec les pouvoirs publics, mais surtout par le discours politique, réinvestir la dimension politique des sujets. Ce ne sont pas que des sujets de gestion, ce ne sont pas que des sujets techniques, ce sont des sujets qui sont un véritable enjeu pour la société tout entière, et donc ce sont des sujets éminemment politiques. Et le politique, il faut le remettre dans sa responsabilité de politique. Donc comment on porte ces sujets, comment on valorise aussi les positions associatives. Bien souvent, on voit le projet associatif, mais comment on le porte? Quel plaidoyer on fait? Quelle est la cause de ces associations? Que portent aussi les professionnels dans leur engagement? Et en même temps, comment on participe? Comment on participe, c'est absolument essentiel aux politiques publiques. On doit absolument, surtout, ne pas laisser la chaise vide. Et enfin, pour les associations, c'est un vrai enjeu démocratique. En elles-mêmes, comment elles font participer toutes les composantes de l'association, les bénévoles, les salariés, mais aussi les personnes accompagnées, les enfants. Il n'y a pas d'espace qui doit être en dehors de tout ça. Et comment on porte, comment on valorise, finalement, les positions associatives à travers le portage politique, le projet associatif. Voilà. Je ne pense pas avoir été hors sujet. Parce que je me suis dit au début, là, je vais être hors sujet en traitant par rapport au bien-être. Mais il me semble que si on avait, encore une fois, on s'était donné comme sujet la dignité, je pense qu'on aurait choisi le même scénario possible et souhaitable. Ouais. On aurait choisi les mêmes axes d'action et les mêmes déclinaisons. Et donc, je me dis que finalement... on parle souvent de bien-traitance pour les enfants, mais au fond, quelque part, on parle aussi de leur dignité. On parle de la participation des personnes, mais au fond, on parle de leur dignité. On parle de la nécessaire aussi remise en selle des professionnels pour les aider justement à accomplir leur mission, mais on parle aussi de leur dignité. Donc, je crois que finalement, j'ai traité le sujet. Et juste un mot, moi, qui m'a toujours... Une phrase qu'on a souhaité mettre dans notre rapport... bien traiter la société en vue de son mieux-être, de son bien-être. Traitez-la bien, elle nous le rendra. J'ai envie de dire, traitez bien les personnes dans le respect de leur dignité, elles nous le rendront. Je vous remercie.
Merci. On a la possibilité d'avoir quelques réactions, un petit moment d'échange, forcément assez limité, mais quand même. Oui. Alors voilà, deux interventions. Trois. Très bien. Quatre. Allez, stop. Parce que quatre, ce sera, pour le temps dont on dispose, ce sera parfait. Allez. Il y a un micro qui peut circuler. Pascal Lord avait demandé la parole.
Bonjour. Je vous remercie pour ce travail et la restitution de ce travail que vous avez mené pendant... Donc, je vous remercie pour ça. Alors, par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est que tous les enjeux que vous avez cités, donc j'ai noté le regard que l'on porte sur la jeunesse, la synergie des acteurs, l'accessibilité de l'offre, la cohésion sociale, la mobilisation des ressources du territoire... tous ces enjeux-là, on pourrait les transposer aux personnes âgées, au monde du vieillissement, on va dire. Ce sont exactement, on a l'impression que ce sont exactement les mêmes enjeux. Et alors on se dit, oui, il faut travailler, oui, on y croit, oui. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça se fait que notre société est devenue ce qu'elle est? Parce que d'un côté, on a les enfants, finalement, tous les enjeux sont, on dirait qu'en fait, tout est à refaire tout le temps. On dirait que rien n'a avancé, on dirait qu'on va droit dans le mur, que ça n'évolue pas dans le bon sens. Et exactement la même chose en ce qui concerne les personnes âgées. Alors, comment ça se fait que notre société en est là?
Fabienne Quiriot, mais cette question, on pourra la faire rebondir vers Jessie Cormon, qui est un sociologue qui intervient après et qui serait peut-être pas mécontente de pouvoir donner un petit coup de griffe de ce côté-là, je pense. Ouais. Allez, Fabienne.
Bien, si je m'appuie moi sur nos travaux, ça remet en question, voilà, qu'est-ce que nous faisons chacun à notre niveau, hein, pour penser la société autrement, pour se donner cette perspective d'une société plus humaine, d'une certaine manière, plus empathique envers les autres, où on se plus qui vraiment se préoccupe, hein, notamment de ceux qui restent sur le bas-côté. Mais ça suppose, encore une fois, moi je crois que tout seul, évidemment, si on est chacun dans son coin à penser, à constater, à se désoler, c'est ça le plus gros risque pour nous. Et moi je tiens à le redire très très fortement, c'est de baisser les bras, de ne plus y croire. Et déjà, commencer à y croire, c'est le début du chemin, c'est la voie. C'est la voie qu'il faut emprunter, nous on y croit, parce que même s'il y avait des sceptiques, ne serait-ce que dans notre groupe, alors les actions qu'on a pu conduire d'ores et déjà, à titre d'expérience, ou celles qu'on a pu glaner ici et là, ben nous démontrent à quel point nous avons justement intérêt à continuer dans cette voie, parce que ça fait bouger les lignes. Et quand... encore une fois, on se résout, on se résigne, on n'y croit plus, mais il n'y a rien de pire. Et je crois que nous avons un devoir à l'égard de la jeunesse et de l'enfance, c'est d'y croire.
Allez, on enchaîne.
Merci, madame. J'étais à nouveau impressionné par votre intervention. Et puis, comme je le disais hier, toute cette énergie qui est dépensée par CNDPF, CNAP... et toutes les autres associations, puis chacun présent ici, pour essayer de recoller les morceaux d'une société qui sépare, divise, exclut, rejette, appauvrit, etc. Ces écarts que vous avez pointés. Et donc j'ai relevé, parce que c'était une interrogation que je me suis posée longtemps, vous avez pointé ce paradoxe qui existe entre l'inflation des discours éthiques, droits de l'hommiste, humaniste, etc., respect, dignité, et l'écart avec la réalité, hein, la réalité sociale. Et j'ai longtemps buté sur cette question-là, et j'ai trouvé effectivement un certain nombre de réponses du type « c'est la crise, c'est le manque de moyens, c'est un manque de volonté, c'est l'individualisme, etc. 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 » Ce n'était pas suffisant, parce que même ces arguments-là, on pourrait facilement les dépasser, et puis pouvoir avancer quand même, et justement réduire les écarts. Et donc je me suis inspiré de ce qu'avait dit Michel Foucault. Michel Foucault a dit « Les prisons, normalement, c'est fait pour intégrer, réintégrer dans la société. » Et pourtant, ça fait longtemps que ça existe, et ça ne marche pas. Et il en a conclu que les prisons, il a inversé la problématique, les prisons, elles produisent la délinquance. J'ai élargi à l'école. Ça fait 40 ans qu'on lutte contre l'échec scolaire. Au bout d'un moment, je me dis « ça ne marche pas ». Donc j'ai, comme Michel Foucault, je me suis dit, l'école produit de l'échec scolaire. Et j'élargis encore, la société, alors il faudra bien, le mot de société, il est un peu commode hein, quand même, il faudra bien la préciser, mais dans les conférences, c'est comme dans les repas de famille, on ne parle pas de politique. Il faudra quand même la nommer, cette société. Et cette société, en même temps qu'elle déclare qu'elle lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion, etc., en fait, elle la produit. Elle produit de la pauvreté. Et à charge pour nous, les uns et les autres, à essayer de réparer, de récolter régulièrement. Et donc, je salue vraiment, même si je ne suis pas légitime pour le faire, mais vraiment le travail que vous avez présenté participe de cette tentative, mais chiche quelquefois, maigre, mais qu'il faut bien mener, bien conduire pour réparer les dégâts d'une société que moi j'appelle libérale.
Ah bon ? Merci. Alors on avait une troisième intervention, puis une quatrième, et puis vraiment on n'ira pas au-delà parce que ça y est, ça tourne, c'est terrible. Allez. Mais je vous ai même pas laissé le temps de répondre à Didier Mars qui lui intervenait hier.
Oui.
Mais bon.
Merci. Non, mais je partage.
Oui.
Donc bonjour. Merci déjà aussi pour votre intervention assez riche. Moi, je voulais vous faire part de mon analyse et puis aussi un peu de ma courte expérience, parce que je ne vais pas avoir la prétention de dire que ça fait non plus des décades que je suis dans le métier. Néanmoins, et je remarque que je n'ai pas pu m'empêcher de relever que vous avez dit le facteur principal est la contrainte de temps. En gros, ça vient casser la bonne intention et c'est là que se retrouve le plus gros problème qui serait le fatalisme. Donc là, en fait, on confronte la politique publique à l'épreuve du terrain et des réalités de managériales. Moi, ce que je relève, de par mon expérience en tant que cadre aussi, hein, parce que je m'inclus dedans, hein, je vais me permettre de faire mon autocritique, mais aussi par rapport à l'expérience des personnes que je connais, puisque je connais un certain nombre de personnes qui sont dans le médico-social, que ce soit dans les EHPAD, dans l'associatif, c'est qu'on a une volonté managériale et un changement des profils des cadres qui deviennent des gestionnaires. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande d'être, hein, et je m'inclus dedans. Et on a cette volonté qui est descendante, hein, des politiques publiques. Il faut tenir des échéances administratives, juridiques et autres, travailler au bien-être, au respect sur le fond. Ce n'est pas seulement un problème de manque de temps à l'état pur. C'est qu'on doit d'abord se débarrasser, entre guillemets, de l'administratif et des formalités avant de pouvoir inclure un travail de fond. Et aujourd'hui, quand on parle de manque de temps, ce n'est pas tellement le temps en lui-même. Le temps, en fait, n'est qu'un moyen, au même titre que l'argent devrait rester un moyen. On va donc, en fait, à l'encontre des intérêts des personnes fragiles par cet effet pervers. C'est ce que vous avez dit. Pour moi, aujourd'hui, le cœur du problème, c'est la politique du chiffre. Il vient des politiques publiques lui-même. Voilà. Parce que ce soit par la loi HPST, quand on part sur une tarification ou une volonté qui va et qui découle sur les EHPAD et à venir aussi sur le milieu des mandataires judiciaires, au jour d'aujourd'hui, pour moi, le problème, c'est pas, il vient pas du terrain, mais il vient du haut et il ruisselle du haut vers le bas. Voilà, c'était tout pour moi.
Merci.
Juste en deux mots, quand vous réfléchissez au temps, pourquoi on a moins de temps aussi ? Parce que quelque part, cette politique gestionnaire réduit les moyens aussi en termes de disponibilité. Et la contrainte des politiques publiques, cette exigence qu'il y a à porter attention, ça demande du temps. Moi, je n'illustre pas le temps comme une cause, mais comme une traduction de quelque chose. Hein, c'est le reflet de quelque chose. On voit bien que souvent, on va mettre le temps. Moi, j'ai pu relever, mais ça fait je ne sais pas combien d'années hein, que voilà, j'interviens auprès des professionnels sur la question justement des politiques publiques, comment ils les reçoivent, comment ils se l'approprient, comment ils mettent en œuvre. Quand je dis professionnels, ça veut dire les cadres, etc. Pour moi, il n'y a pas les professionnels de terrain d'un côté et les autres. Pour moi, c'est tout un ensemble. Comment toute cette organisation professionnelle s'organise ou se désorganise ? Mais ça mérite réflexion, mais le temps, pour moi, c'est le reflet de quelque chose, justement.
Allez, dernière intervention.
Dalani, on m'a dit, UDAF des Bouches-du-Rhône. Alors, je souhaitais réagir à votre intervention. Alors, en effet, on n'a jamais autant entendu parler, voir apparaître des décrets, des circulaires, des lois sur ces principes de respect et de dignité. Alors, on peut soit s'en réjouir ou soit s'en inquiéter. Et moi, je m'en inquiète. Ces principes de dignité et de respect sont quand même inscrits dans les textes fondamentaux, notamment la Déclaration des droits de l'homme. Et je crois qu'à chaque fois qu'on les répète, qu'on les met sur le papier, on croit parfois qu'on les renforce, alors qu'en réalité, on les affaiblit parce qu'on les banalise. Et d'ailleurs, vous avez évoqué notamment la notion aussi de pouvoir d'agir. Et il me semble-t-il, nous sommes dans la même logique. Pour moi, le pouvoir d'agir est complètement antinomique des logiques que l'on voit apparaître aujourd'hui d'appel à projet ou de dispositif. Le pouvoir d'agir appelle à l'innovation avec les personnes accompagnées, alors que l'appel à projet, le dispositif, nous demande de faire entrer toutes les personnes quelle que soit leur particularité, dans le même trou de souris. Alors comment, quelque part, être schizophrène dans toutes ces injonctions, hein? C'est un peu la question que j'ai envie de poser.
Merci. Question facile. Hein?
Oui, non, mais justement, ça, là, on est dans ce que vous dites, on subit. On n'est pas actif, on subit. Si on prend les textes, on dit, ah, on répète, mais si on ne les met pas en vie, si on ne donne pas du corps à ces textes, si justement on ne les met pas en questionnement, bien sûr, un texte peut être, on peut faire dire un texte tout et son contraire, mais s'approprier un texte, c'est le mettre justement en questionnement, s'interroger sur la mise en œuvre de ce texte. Pourquoi est-il nécessaire? Moi, je ne vous dirai pas que ces textes sont inutiles, au contraire. Pour moi, ce sont des textes qui permettent de se référer à un corpus juridique qui va d'ailleurs d'abord dans le sens des personnes. Ce ne sont pas des textes qui s'appliquent aux professionnels. Ce sont des textes qui concernent les personnes. Après qu'il y ait des modes opératoires, comment on les met en œuvre, ça c'est autre chose. Mais je crois que là où il est le problème, ce n'est pas tant les textes pour les personnes, c'est la manière dont on met en œuvre ces textes, qu'est-ce qu'on en fait. Et à mon avis, je crois qu'à tous les niveaux, et notamment au niveau politique aussi, quelquefois, c'est le meilleur et le pire.
Merci.
Michel, je voudrais juste dire un mot. Le CNDPF et d'autres mouvements, le CNAIMO, ADESA domicile, enfin, je ne les ai pas tous en tête, mais on a participé à ce travail de prospective. Pour nous, le CNDPF, c'est hyper important. Et chacun des membres du conseil d'administration a eu le texte dernièrement de travailler avec la CNAP. Et je pense que ça fera partie de nos orientations sur les années à venir. On est plutôt dans l'idée de résister et d'être actif plutôt que dans l'idée de subir et de se laisser envahir par l'amorosité.
Allez, merci. Bravo.